Mais ce matin, j'ai envie de m'encourager par la prédication et par la même occasion vous encourager. Alors, hein. Nous allons lire des textes que nous connaissons bien, où on a déjà parlé, où j'ai déjà parlé, mais bon, toujours bon de revenir à ces textes-là pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire chaque fois qu'on ouvre sa parole. Nous commençons une première lecture dans Genèse 12. Genèse 12, au chapitre 12, et le verset, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 pour les Belges. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Une deuxième lecture au chapitre 15, toujours de la Genèse. Chapitre 15 de la Genèse. Après ces événements, donc il faut lire le chapitre 14 pour voir les événements. C'était des événements assez tragiques où il y a eu une guerre. Et Lot a été enlevé avec sa famille et Abraham a dû intervenir. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit « Seigneur, Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Nous allons traiter ce matin, encore une nouvelle fois, le sujet de la foi. Je vous en ai déjà parlé, on a déjà eu des prédications sur ce sujet, et c'est important d'avoir la foi. Car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense aussi ceux qui le cherchent. » Guy a dit de demander de bonnes choses à Dieu. Mais si nous demandons de bonnes choses à Dieu, on doit croire qu'il existe et avoir la foi en Dieu. La foi, vous savez tous, est la base de notre croyance. Sans la foi, il nous est dit que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous voulons être agréables à Dieu ce matin, nous devons avoir la foi. Il est évident. Et ce matin, j'ai choisi trois récits. Je vais être court dans chaque récit. Nous démontrons la foi de ces personnes qui y sont impliquées, afin de nous encourager, chacun d'entre nous, moi le premier, à mettre notre foi en notre Dieu. Si nous nous trouvons dans les mêmes circonstances que ces gens, dans une circonstance ou autre, nous avons tous vécu peut-être des choses comme Abraham, comme les autres personnes que je vais citer, eh bien c'est pour nous encourager, pour que nous puissions approfondir notre foi et croire que les bonnes choses que nous demandons à Dieu, nous pouvons les recevoir, si nous avons la foi. Que nous soyons chacun d'entre nous encouragés par ces paroles peut-être dites imparfaitement, mais que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Le premier récit, donc, que vous avez vu, c'est l'histoire d'Abraham, que nous connaissons tous, Au fond, quelque part, je pense, me semble, qu'il n'a rien demandé de particulier à Dieu au début. Dieu l'a appelé. Il devait certainement avoir une relation profonde avec Dieu pour que Dieu puisse l'interpeller, l'appeler à cette mission, bien entendu, mais ce n'est pas une décision d'Abraham de choisir la voie que Dieu a choisie pour lui. Il n'y pensait certainement pas. Et dans cette mission-là, dont Abraham a été choisi, bien, il faut avoir une foi particulièrement profonde. Et bien entendu, il devait être sûrement agréable à Dieu. Sûrement, dans le passé, il a usé de foi pour d'autres raisons. Il ne s'est pas mentionné dans la parole de Dieu, mais je le devine, puisque Dieu l'a appelé. Et Dieu l'appelle quelque part à le suivre aveuglément. Ou si vous préférez, le suivre par la foi. Avec une promesse à la clé, devenir une grande nation. Vous voyez l'âge de notre ami Abraham, hein, 75 ans. Jean-Luc nous a parlé de deux hommes, Caleb, 85 ans, et Josué, 70 ans. Donc nous sommes dans la bonne tranche d'âge. Moi, je suis un peu jeune encore, je suis encore un gamin, mais ben, nous sommes tous plus ou moins dans la bonne tranche d'âge pour être appelés par Dieu. Et à être fécond, peut-être, hein, mes frères, peut-être que nous avons à avoir la même promesse qu'Abraham. Là, je rigole. Mais enfin, disons que, voilà, Dieu a appelé Abraham à 75 ans pour lui dire, voilà, j'ai une grande mission pour toi, tu vas quitter ton pays et je vais faire de toi une grande nation. Et ce couple-là n'avait pas d'enfant et il avait 75 ans. Voilà, c'est quelque part l'humour de Dieu, n'est-ce pas, de choisir des jeunes comme ça. Mais Dieu ne regarde pas aux circonstances de la vie, quelque part. Il a un plan pour chaque homme ou chaque femme, à nous d'y entrer et d'y croire quand Dieu nous appelle. Et Abraham s'y embarque en menant sa famille et son personnel. Et je dis, attention, l'aventure de la foi peut impliquer aussi notre famille si nous répondons à l'appel de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous, mais s'il nous demande de faire quelque chose, ça implique notre vie personnelle, mais si nous sommes mariés, si nous avons de la famille, bien entendu, ça implique que notre épouse, nos enfants, notre famille doit nous suivre, doit entrer dans ce plan auquel Dieu nous destine. Et Abraham croit en cette promesse, car Abraham, comme je le disais, a une relation profonde et intime avec Dieu, lui permettant carrément de s'engouffrer dans ce projet terrible que Dieu lui propose. Et cette aventure n'est pas sans danger. Il faudrait lire le chapitre 14, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu des dangers pour Abraham. Il a dû combattre des rois. Il a dû affronter des dangers. Il a dû délivrer son neveu qui avait été enlevé. Et dans tout au cours de sa vie, nous voyons que Abraham a affronté des difficultés, des ennemis, etc. Donc, notre vie par la foi n'est pas une vie de tout repos, ni pour Abraham, ni pour nous tous. Mais Abraham ne se décourage pas. Il avance dans le projet que Dieu a pour lui. Et frères et sœurs, ne nous décourageons pas dans notre marche. Tout comme Abraham, avançons dans le projet que Dieu a pour nous. Car Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Des projets de bonheur, des projets de paix, de joie, de guérison, de délivrance. À nous d'y entrer comme Abraham est entré dans ses projets. Et après ces événements difficiles que Abraham a vécu dans cette guerre où il a dû délivrer son neveu, Dieu se révèle encore à lui en lui réitérant sa promesse. Et quelque part, Abraham est pris par le doute, parce que je ne sais pas combien de temps il s'est passé déjà, mais il y a déjà un certain temps depuis qu'Abraham a été appelé, et toujours rien à l'horizon, le ventre de Sarah ne s'arrondit pas. Et cette promesse-là, il n'y croit peut-être pas trop. Et qui pourrait lui reprocher de douter? Il y a de quoi d'avoir des doutes. Tu m'as embarqué dans cette aventure, pouvait-il dire, en me faisant une promesse d'avoir un héritier. Déjà, quand tu m'as appelé, j'étais âgé. Et maintenant, j'avance en âge et toujours rien en vue, pouvait-il dire. Je comprends cet homme et nous-mêmes nous intercédons parfois pour des sujets personnels. pour des cas que l'on nous soumet, comme je le dis de temps en temps, l'exemple, la liste de prières pour notre communauté. Et nous ne voyons pas, bien souvent, les résultats promis, les résultats que nous espérons. Je vous en ai encore parlé dimanche de ma présidence, de voir que des réponses n'ont pas été faites, elles ne sont pas encore faites. Pour certaines choses, je peux vous dire que je commence tout doucement à avoir le début de réponse pour des prières que j'ai faites depuis quelques années. Je dis, je commence à voir certaines choses. Bien sûr, des fois, vous avez eu une réponse immédiate. Mais des fois, on attend. Qui, ce matin, ne peut pas dire, j'attends depuis longtemps une réponse à ma prière ? La conversion de quelqu'un de très cher, la guérison de quelqu'un, ou des choses qu'on a vraiment besoin, que l'on désire vraiment voir s'accomplir dans notre vie, et que nous ne voyons pas. Et Abraham est pris par le doute. Que m'as-tu fait vivre, mon Dieu, mon héritier ? Oui, c'est Eliezer de Damas, et personne de ma descendance. Et Dieu temporise les craintes d'Abraham et les doutes de son serviteur. Et il réitère sa promesse et confiance. Regarde l'univers, tu vois les étoiles. Oui, tu ne peux pas les compter, hein, il y en a tellement. Et pourtant, je les ai créés avec rien, juste ma parole. Dieu dit, et nous voyons, quand Dieu a dit, l'univers commence à se mettre en mouvement, à se créer. Et elles existent, mon cher Abraham. Alors, mon ami Abraham, peux-tu me faire confiance ? Et Dieu nous pose la même question ce matin, si nous lui adressons la même remarque qu'Abraham nous a faite. Seigneur, je compte sur toi, mais là, je ne vois rien. Je ne vois rien venir. Seigneur, je ne sais pas trop si je peux te faire confiance pour être les répondre. Alors Dieu lui dit, allez, compte les étoiles, vas-y. Et Abraham commence à compter, je pense. Et il y en a tellement. Et il les compte peut-être en double, en triple, parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas les voir. Et il doit s'arrêter, il y en a trop. Et Dieu dit, je te bénirai de la même façon. Tu vois, je te bénirai. Et il nous est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel. Après cela, Dieu le considéra comme juste. Et ce matin, pouvons-nous, pour un sujet particulier, ou pour plusieurs sujets particuliers, pour lesquels nous prions, pour lesquels nous avons mis un temps notre foi, et pour lesquels nous doutons maintenant de la promesse de Dieu, pouvons-nous avoir cette paix et cette confiance qu'Abraham a eue ? Et Sarah n'est pas tombée enceinte le lendemain. Elle n'est pas tombée enceinte le lendemain. Encore quelques années se sont passées avant que cette promesse s'accomplisse. Frères et sœurs, comme Abraham, commençons à compter les étoiles. Ce sont les promesses de Dieu. Nous sommes embarqués comme Abraham dans l'aventure de la foi. Car cette foi, F-O-I, est une aventure. On marche sans savoir où l'on va, mais on y va, avec l'aide de Dieu. Peut-être on pense que nous allons à l'aveuglette, mais non, Dieu est à nos côtés. Ayons confiance en notre Dieu de ce qu'il a promis pour nous. Comptons, oui, les étoiles et croyons à la puissance de Dieu. Dieu veut nous considérer comme justes, car nous sommes justifiés par la foi que nous mettons en lui. Alors, moi le premier, ne perdons pas courage, tout comme Abraham. Nous savons tous que Abraham fut récompensé par sa foi et par sa confiance en Dieu. Il a eu un fils, il a eu une descendance nombreuse. Dieu a accompli ses promesses, mais comme toujours, Dieu n'a pas le même temps que nous. Dieu n'est pas limité par le temps et le temps ne se compte pas de la même façon auprès de Dieu qu'auprès des humains. Une autre histoire que nous allons voir où il a fallu avoir de la foi. Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. Je ne vais pas lire tout le texte que j'avais pris, je vais un peu résumer. Nous sommes au temps du prophète Élisée. Nous avons une guerre entre la Syrie et Israël, déjà à ce moment-là. Les temps n'ont pas vraiment changé. Sauf qu'il n'y avait pas de missiles à ce moment-là, mais bon, il y avait quand même pas mal de dégâts, humainement parlant. Et le roi de Syrie est furieux parce qu'il croit avoir un espion dans ses rangs, parce que chaque fois qu'il prépare une invasion, qu'il prépare des plans, le roi d'Israël est au courant, alors il se demande, mais qui est celui qui est contre moi, qui est l'espion dans ma cour? Mais on lui dit, mais écoute, il n'y a pas d'espion, tout simplement. Il y a un prophète en Israël, il s'appelle Élisée. Tout ce que tu dis dans ta chambre, ben, il l'entend. Dieu lui révèle et il le dit au roi d'Israël. Et c'est pour ça que tes plans, eh bien, sont anéantis. Et il se dit, bon, ben maintenant, ça ne va pas continuer à durer. Moi, je vais envoyer mes troupes. On va capturer ce prophète, on va le tuer. Comme ça, moi, je serai tranquille. Et voilà ce qui arrive. On va se mettre en route pour aller envahir la ville où Élisée se trouve. Et au matin, un jour, le serviteur se réveille et qu'est-ce qu'il voit? Donc le roi dit, au verset 13, « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On va lui dire qu'il est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe le cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée, etc., etc. Et évidemment, les Syriens sont arrivés et le prophète, vous le direz, a demandé à Dieu qu'il aveugle les Syriens. Ils ont été aveuglés et ils ont été conduits auprès du roi d'Israël et Israël a gagné une bataille sans combattre, tout simplement par la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que ça peut nous concerner, cette histoire? Mais une autre preuve de la foi dans l'invisible. Car la foi, c'est croire en l'invisible. C'est ça la foi. Et frères et sœurs, c'est cela qui nous freine tous. Car nous devons faire confiance aveuglément en Dieu. Et nous, les humains, nous n'aimons pas vivre à l'aveuglette. On veut voir, on veut sentir, on veut toucher, on veut du concret. Et dans la foi, quelque part, il n'y a rien de concret parce qu'on ne sait pas toucher, on ne sait pas voir. Donc, cet Élisée est un homme à abattre. Et c'est un homme plein de foi parce que Élisée ne se laissera pas capturer, il veut donner une grande leçon à son serviteur. Et cet homme a peur quand il voit les troupes syriennes envahir la ville. La panique s'empare de cet homme et je pense que chacun de nous, si nous allions vivre cette situation, nous serions quand même dans une grande panique. Déjà maintenant, quand on entend que nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, avec tout ce qui se passe, je pense qu'il n'y a personne qui se réjouit. On est quand même tous un peu inquiets. C'est normal. Nous sommes humains, même si nous avons Dieu avec nous. Bien, ce n'est jamais quelque chose d'agréable de savoir qu'une guerre peut être déclenchée. Et je comprends la panique de ce serviteur. Et je me suis posé la question, être dans une situation aussi difficile et périlleuse, avons-nous déjà paniqué? Comment avons-nous réagi face à des situations délicates? Ou avons-nous réagi avec foi comme le prophète? Alors je ne veux juger aucune réaction. Je dirais tout simplement que nous sommes des humains, avec nos temps forts et nos temps faibles. Mais le serviteur, par rapport à Élisée, ne voyait pas les choses comme le prophète le voyait. Car la foi, c'est ceci. Or, la foi, C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme je disais, on ne sent pas. Quand on a la foi, on espère quelque chose que nous ne voyons pas encore. La foi nous a déjà fait acquérir les choses, quelque part, avant de les avoir obtenues. Par la foi, nous devons les obtenir et nous les verrons se réaliser. Et bien souvent, nous sommes loin de ce processus car c'est difficile. Moi, le premier, je vais vous dire, c'est pas facile. À moins que je sois le pire des chrétiens. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes meilleur que moi, hein, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas toujours facile de me dire, j'ai déjà obtenu par la foi ce que je demande. Mais j'ai vu, c'est vrai, des choses se réaliser. Après, on se dit, ah, merci Seigneur. Mais sur le moment même, on a difficile de croire que les choses vont s'accomplir. Et le serviteur, malgré la proximité avec le prophète, ne vivait pas la même réalité spirituelle que son maître. Alors je me suis posé cette question, sommes-nous sensibles aux choses de l'esprit? Voilà, là, vous allez dire, voilà le pentecôtiste qui parle. Non, soyons clairs, il n'y a pas de pentecôtisme ou quoi. Nous devons tous les chrétiens être sensibles aux choses de l'esprit, aux choses que Dieu veut nous faire comprendre. Ce n'est pas de l'exaltation. Ça, c'est simplement de comprendre que la parole de Dieu est toujours vivante et que nous devons prendre les promesses de Dieu. Notre intimité avec Dieu est-elle suffisante pour vivre vraiment le surnaturel de Dieu? C'est la question que je me pose. Notre foi doit avoir cette sensibilité, frères et sœurs, pour vivre des choses très intimes. Nous faisons voir les choses comme Dieu les voit. Dieu ne voit pas les choses de la même façon que nous. Il n'a pas, dans l'espace-temps, il n'est pas le même que nous. Et dans les choses de la foi, il les voit différemment. Il les conçoit différemment et nous n'arrivons pas toujours à comprendre. Cette vision et cette intimité qui ont été données à Élisée afin de sortir dans cette situation complexe dans laquelle il était plongé, lui a donné la victoire. La foi, frères et sœurs, devrait nous faire voir les choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Mais notre sensibilité spirituelle nous les fait-elle discerner? C'est ça la question ce matin. Et quand nous lisons le texte, quand nous allons plus loin, nous voyons la victoire que Élisée a obtenue, mais la victoire que Israël, le peuple de Dieu, a obtenue par la vision d'Élisée. Et si nous voyons les choses comme Dieu les voit, je crois que nous pouvons remporter des victoires personnellement, mais même au niveau de l'Église. Notre foi doit se communiquer aux autres, pour que Dieu se manifeste comme il s'est manifesté à ce temps-là pour Israël. Simplement, sans combattre, Israël a une victoire, grâce à un homme qui était sensible aux choses de Dieu. Et peut-être que l'Église n'obtient pas les victoires qu'elle voudrait, par manque de sensibilité aux choses de Dieu, chacun d'entre nous. Remettons-nous ce matin en question pour voir si vraiment nous voyons toujours les choses comme Dieu les voit, si nous sentons comme les choses comme Dieu les sent. Et je ne suis pas quelqu'un d'extra-lucide, je suis bien les pieds sur terre, hein. Mais je crois à la véracité de la parole de Dieu, et je crois que les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Ici, comme notre frère a dit, demandons de bonnes choses. Si nous demandons de bonnes choses, c'est des choses que nous n'avons pas encore. Je crois que c'était comme ça que tu le voyais. Donc si je demande des choses, c'est que je ne les ai pas. Donc je dois croire que pour voir ces bonnes choses, croire vraiment, mettre cette foi en action. C'est ce que nous ne faisons pas toujours, malheureusement. Et pas que nous ne le faisons pas, mais des fois, nous bloquons. Alors, un dernier texte, dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Un texte que j'appelle très dur. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi elle répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle, « et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Donc je disais, je pense que c'est un des textes les plus durs de la part de Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus parler aussi durement. Même à la Samaritaine, il n'a pas parlé comme ça. Et pourtant, hein, si on voulait être un grand puritain, on aurait pu lui faire pas mal de reproches à cette femme-là. Non, cette femme-ci, elle a l'air une femme bien de sa personne, mais elle a un gros problème. Ce dialogue est très dur. Et une femme qui cherche une solution pour le cas désespéré de sa fille, a-t-elle consulté des spécialistes ? Sûrement, mais sans résultat. Dernier recours, Jésus. Elle a entendu parler de lui. Jésus fait tant de miracles. Ben oui, il va s'occuper sûrement de ma fille et lui donner vraiment la victoire pour ce gros problème. Mais la déception est très grande. Quand elle s'approche de lui, il ne la regarde même pas. C'est pas poli, ça. Hein. Jésus ne regarde même pas cette femme-là et l'ignore. Elle est complètement inexistante. Et c'est vraiment choquant, on pourrait dire, de la part de Jésus qui est rempli d'amour. Elle crie, car il n'y a pas de réponse de sa part, donc elle crie. Et non seulement elle crie, mais elle poursuit Jésus et ses disciples. Elle y tient, hein, sa délivrance. Elle a vraiment de la persévérance. Et l'attitude des disciples n'est pas nouvelle. Quand ils sont lassés de quelqu'un, allez Seigneur, comme dirait Trump, dégage, dégage, viré. Et voilà l'attitude des disciples. Vire-moi ça, Seigneur. Elle nous embête. Ils sont contrariés. Ce n'est pas la première fois que les disciples ne supportent pas être contrariés, d'être embêtés. Hein. Et on pourrait se dire, Jésus serait-il raciste, xénophobe? Cette femme n'est pas juive, il est vrai. Il faut aussi un peu, peut-être, nous représenter le contexte de l'époque. Les païens étaient considérés comme impurs, étrangers aux lois du seul Dieu véritable. Ces gens avaient leur Dieu, qu'elle avait sûrement invoqué sans succès. Et Jésus, quelque part, lui fait comprendre que jusqu'à la croix, ben, le salut est d'abord pour les juifs. Et qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants d'Israël aux étrangers. Donner la bonne nourriture, la bonne parole aux étrangers. Et cette femme comprend le message 5 sur 5. Elle a compris. Mais elle exerce sa foi. Sa foi est grande autant que les circonstances sont difficiles qu'elle traverse. Le pain que Jésus propose aux enfants d'Israël, quelque part, elle le voit, il est souvent gaspillé. Elle sait bien que Jésus n'est pas toujours accepté par tous ses compatriotes, les Juifs. Et qu'il y a beaucoup de déchets dans le pain que Jésus apporte. Et elle dit, ben, si je suis comparé à un petit chien, je n'aimerais pas être insulté ainsi, mais voilà, ben, je veux bien manger les miettes. Les miettes que ton peuple gaspillé ne veut pas. Et cette réponse plaît à Jésus et lui accorde la grâce et la guérison de sa fille. Il y a une chose qui est marquante aussi. De la part de cette femme, qui est païenne, elle reconnaît directement la divinité de Jésus en l'appelant Seigneur. Cette femme-là reçoit Dieu dans son cœur. Dieu se révèle dans le cœur de cette païenne. Et nous avons, frères et sœurs, ici une persévérance dans la foi. Elle lutte jusqu'à la victoire, malgré les embûches et les obstacles sur son chemin. Eh bien, cette femme est un exemple pour nous chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, qui venons régulièrement en réunion, qui prenons notre temps dans la prière, dans l'intercession. Cette femme est un exemple pour nous qui parfois nous nous décourageons trop souvent face aux embûches qui se trouvent sur notre chemin. Et par rapport à cette femme, nous n'avons pas d'excuses. Nous avons la parole de Dieu, nous avons les promesses qui nous instruisent, qui nous parlent chaque jour. Alors, moi le premier, vous ensuite, exerçons notre foi. Et en conclusion, si nous voulons résumer les trois exemples de ce jour, notre foi d'être basée comme suit. Premièrement, sur la confiance. Tout comme Abraham, nous devons avoir confiance en les promesses de Dieu, même si elles sont parfois incompréhensibles. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, il nous est dit à propos d'Abraham, au verset 21, « Abraham ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ayons ce texte dans nos cœurs. Dieu accomplit toujours ses promesses. Deuxièmement, croire en l'invisible. Être sensible à l'Esprit de Dieu, comme Élisée, et sentir quand Dieu se révèle à nous. Tout d'abord par sa parole, peut-être par une révélation spéciale. Je n'appuie pas spécialement là-dessus, mais Dieu peut se révéler de manière particulière de la part de Dieu. Dieu peut nous parler individuellement, je le crois. Et n'oublions pas ceci, Dieu, c'est dans Romains chapitre 4, verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Wow. Dieu appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Hein. Il a appelé la lumière. Ça, c'est Dieu. Ah, c'est un mystère pour les scientifiques. Hein. Ils essayent par tous les moyens de savoir comment tout cela fonctionne si bien. Mais Dieu a appelé des choses qui n'existaient pas. Moi, ça m'a toujours frappé, là, ce verset-là. Et nous devrions peut-être, sûrement le mettre pour nous. C'est sûrement un des aspects de la foi, peut-être le plus controversé, le plus incroyable, mais qui est bien réel, frères et sœurs. Oh oui, Dieu voit déjà la réponse positive en nous. Et troisièmement, apprendre à lutter avec Dieu. Intercéder, ne pas se relâcher. Il y a tant d'exemples dans la Bible de personnes qui ont intercédé. Voyez l'histoire de ce juge, ce mauvais juge. Cette femme a intercédé. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi, et tant d'autres. C'est vrai que ce sont des aspects difficiles, parce qu'avoir la foi, ce n'est pas facile. C'est difficile parce qu'on doit croire en des choses que nous ne voyons pas. Mais nous devons continuer à intercéder malgré les obstacles qui se dressent sur notre route. Ah, c'est vrai que nous sommes dans une époque où d'un simple clic, nous obtenons ce que nous désirons. Et quand l'ordinateur est en train de ramer que ça prend 35 secondes au lieu du clic, on devient fou, hein. On est en train de secouer la machine pour que ça fonctionne. On se dit, c'est pas possible. Nous sommes dans un monde qui va vite. Comme je dis, le temps de Dieu, c'est pas le temps de l'ordinateur. Pourtant, Dieu est plus puissant que l'ordinateur. Parce qu'il sait entendre toutes les prières, ne fût-ce que ça, du monde entier en même temps. Donc, vous imaginez, quelle puissance. Avec Dieu, frères et sœurs, il faut apprendre le combat de la foi. Et je veux dire, ce matin, je me prêche à moi d'abord, et à vous ensuite, parce que c'est quelque chose que nous vivons tous les jours et que nous avons peut-être difficile d'appliquer. Alors, sommes-nous prêts à emprunter le chemin qui mène à la victoire? Et n'oublions pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'oublions jamais cela.